Les événements de son époque ont fait de cet Antillais un Algérien. C'est ainsi qu'il est redevenu un Africain.
C'est un homme qui était à la fois formidablement intelligent, d'une grande culture. Il a fait un choix décisif à un moment donné de sa vie. Enfin, les types du FLN sont venus souvent le requérir pour soigner des gens, etc. Et puis un jour, il a basculé complètement de leur côté. Il est devenu Algérien.
Prénom.
Franz.
Nom.
Fanon.
Date de naissance.
Le 20 juillet 1925, à Fort-de-France, dans une famille nombreuse de la petite bourgeoisie martiniquaise.
Première dissidence.
À tout juste 18 ans, il passe à la France libre. Maroc, premier contact avec l'Afrique du Nord. Campagne de France, croix de guerre, mais aussi, sous le drapeau tricolore, découverte de l'importance de l'épiderme. Il est noir.
Études.
Médecine à Lyon, spécialisation psychiatrie.
Premier poste de responsabilité.
Médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. Corps à corps avec la folie, face à face avec la guerre d'indépendance qui commence.
Seconde dissidence.
Il rejoint le FLN et passe à la clandestinité en 1957.
Second poste de responsabilité.
À Tunis, porte-parole du FLN, puis ambassadeur itinérant du gouvernement provisoire de la révolution algérienne en Afrique noire.
Décédé.
Le 6 décembre 1961, dans un hôpital militaire des États-Unis. C'est d'ailleurs aux États-Unis qu'il sera compris le plus vite par la communauté afro-américaine, bien mieux qu'en France.
Où est-il inhumé ?
Dans une parcelle libérée du territoire algérien à proximité de la Tunisie. Après l'indépendance, le gouvernement algérien lui accordera une place assez parcimonieuse, mais à Blida, il est considéré comme un marabout.
Œuvre principale ?
On cite toujours Les damnés de la terre et sa fameuse préface par Jean-Paul Sartre, mais ne pas oublier Peau noire, masque blanc et l'enceinte de la révolution algérienne.
France Inter. Intelligence, service, Jean Lebrun.
Tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Dire le vrai, le regard rétrospectif qui va être le nôtre, c'est pas le genre de Fanon. Les mémoires, disait-il, c'est pour ceux qui désespèrent d'agir encore. Lui, il écrit à la volée, en dictant à une seule personne quand il s'agit de son théâtre de jeunesse, à plusieurs personnes qu'il va épuiser quand il s'agit de finir, dans l'urgence, les damnés de la terre. Avec Fanon, il ne faut pas compter sur un retour au pays natal. Ça, c'est un titre pour Aimé Césaire, que jeune, Fanon a d'ailleurs connu professeur dans son lycée de Fort-de-France, et qui occupe toute la place en Martinique. Dans les 10 dernières années de sa vie, Fanon ne reviendra d'ailleurs jamais dans son île. C'est son frère Joby qui se chargera de l'évocation de ce qu'il y fit pendant ses premières années.
Franz était toujours un peu plus pressé. Très tôt, il a voulu sauter les classes. Au cours moyen, il a voulu passer le certificat d'études. En deuxième année du bac, il a voulu passer la première année. Bref, il était pressé parce que, me disait-il, il faut que je vive vite parce que je ne vivrai pas longtemps. Qu'était la vie à Fort-de-France ? Un père petit fonctionnaire, une mère petite commerçante. 4 sœurs et 3 frères, nous faisions ce qu'on appelait à ce moment-là une bande. Et nous nous confrontions souvent avec d'autres bandes, les bandes de la bande raide.
Vous confrontiez comment, physiquement ?
Ah, physiquement. Et Franz était déjà un meneur. On l'appelait à ce moment-là un baofier.
À 15 ans, en 1940, Fanon fait déjà le Fanon, c'est une expression de lui, bouffonnant, interpellant. Dirigeant. Mais les Antilles, à cette époque, sont devenues un laboratoire pour le régime du maréchal, représenté à Fort-de-France par l'amiral Robert. Oui, il y a un Vichy des amiraux, il y a un Vichy des tropiques, qui fait régner le pétainisme à l'état pur. Pas besoin d'allemand, ni même de juif, pour pratiquer l'antisémitisme. Fanon entend un de ses maîtres lui dire « Attention, si on s'attaque aux juifs, on s'attaque aussi aux noirs ». Nous sommes en 43, il n'a pas 18 ans, il n'a pas demandé l'autorisation de ses parents pour passer à la dissidence. 1944, avec les Antillais de la France libre et son camarade Manville, Franz se retrouve au Maroc avant d'aller faire la campagne de France. Marcel Manville fut un des grands camarades de jeu, puis de guerre de Franz.
Nous, par notre culture, par notre statut juridique, sommes français. Lorsque nous quittons les Antilles, nous arrivons au Maroc, et là nous sommes littéralement frappés par cette série de différenciations entre les Arabes, les Français d'Alger et de Maroc, c'est-à-dire les Pieds Noirs, les Français de France, et les Sénégalais. D'une façon générale, on les appelait Sénégalais, toutes les troupes qui venaient d'Afrique noire. Nous sommes citoyens de la République, mais nous avons la peau noire. D'où une situation véritablement ambiguë, la différence à faire entre l'Africain qui n'est qu'un indigène et l'Antillais, Franz, moi-même, ou Mozol, ou Venot, ou Dopia, pour parler de camarades de combat, nous avons un statut de Français. Nous mangeons la cuisine européenne, nous vivons dans des tentes qui ne sont pas des guitounes, et nous ne prendrons pas le chéchia. Mais lorsque le jeune soldat martiniquais ou guadeloupéen oublie son calot d'Européen, il est traité comme un indigène.
Sous le drapeau tricolore, on lui dit « Sois français ». Il ne demande pas mieux. Encore faut-il qu'on le laisse le devenir. Parce qu'apparemment unis, les troupes de la France libre sont en fait divisées par la question de l'épiderme. Et puis, une fois la guerre enfin portée en métropole, beaucoup de Français déçoivent Fanon. Après la mort de sa mère, on a retrouvé une lettre qu'il lui avait envoyée en janvier 1945, au moment d'être blessé et décoré. « Je me suis trompé », écrit-il. « Il n'y a rien ici qui justifie ma décision de partir. » Et il cite explicitement l'attitude des paysans de l'Est, accrochés aux intérêts de leurs fermes et qui lui paraissent parfaitement indifférents à ce qu'il est venu défendre dans la campagne de France. La libération de la France n'est pas la sienne. Il ressent ensuite davantage d'indifférence que de reconnaissance dans l'organisation du rapatriement à laquelle il est soumis. Et de retour, enfin, il retrouve une Martinique qui lui paraît étroite. Il y passe son bac. Césaire est de plus en plus le grand homme. Il va faire le pari de l'émancipation par la départementalisation. Pas de quoi attirer Fanon, qui rêve sans doute d'indépendance.
Monsieur Lebrun, après son baccalauréat, Franz Fanon n'envisage-t-il pas de devenir médecin ?
Et il lui faut pour cela quitter la Martinique. C'est à Lyon qu'il choisit de faire ses études de docteur. Il aimera ce mot. Il est victime des mêmes remarques que pendant son époque militaire. En Martinique, le référentiel est subtil, fait de toutes sortes de catégories intermédiaires de couleurs. Mais ça, le jeu à Lyon les ignore. Mais j'ai demandé un étudiant, pas un noir. À l'inverse, l'un de ses camarades, après un brillant exposé qu'il a fait de sa voix haute, lui dit « Au fond, t'es un blanc ». En guise de thèse, il a imaginé un manifeste. Ça deviendra « Peau blanche, masque noir » qu'il présentera au Seuil, à l'éditeur Francis Janson, en lui lançant « Vous voyez ce qu'un noir est capable de faire ». Janson appréciera peu d'être traité en raciste, mais il publiera et il appuiera toujours Fanon. Fanon, c'est la psychiatrie qui l'attire, car elle permet d'interroger la parole qui déborde. Le médecin peut y rejoindre le chantre. Pour Toby Nathan, notre premier interlocuteur ethnopsychiatre, Fanon, c'est un grand, parce qu'il a cherché à considérer le patient dans sa culture, dans sa société, laquelle peut aussi être malade. Fanon n'admettait pas le choix brutal de la séparation de l'hôpital et de la cité.
Il faut savoir quand même que c'était d'immenses endroits, des véritables villes, quoi, hein. Et à l'intérieur desquels les malades travaillaient la terre. Pour qui ? Pour l'hôpital, en fait. Hein. Et donc, vous aviez les médecins, c'était des sortes de princes miséreux. Et ils étaient entourés de miséreux. Je me souviens, j'avais un de mes collègues, mais il n'est pas le seul, hein, mais il y en a eu plein comme ça, qui était le fils d'un psychiatre, qui est devenu psychiatre lui-même, qui a grandi là-dedans, qui a toujours été élevé par des malades, en fait. Hein. C'est-à-dire que les malades servaient à la maison, il s'occupait du potager, il s'occupait des enfants, etc. Et c'était une sorte de ville artificielle dans laquelle on vivait. C'était ça l'asile quand même. Il arrive là-dedans et il dit non, l'asile, c'est pas un asile, c'est un hôpital. C'est un lieu qui doit être un lieu thérapeutique et il doit donc être pensé pour devenir un lieu thérapeutique. Et ça, il l'avait appris auprès de François Tosquelles à Saint-Alban. Et c'est ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire, pour soigner les gens qui rentrent dans l'hôpital, il faut commencer par soigner l'hôpital. Et soigner l'hôpital, c'est l'organiser de manière à ce qu'il devienne une structure thérapeutique.
Toby Nathan cite le docteur Tosquelles. Il aime dire aussi que les paroles qui valent aujourd'hui ont déjà été prononcées par quelqu'un autrefois. Tosquelles, à Saint-Alban, hôpital pilote en Lozère, a eu Fanon comme interne. Et dans cet hôpital, il réunissait pour l'échange de paroles, la prise de décision, les patients dans un club. Un club. Écoutez, Tosquelles. Alors son français mêlé de catalan provoque l'attention.
Alors donc le club, c'était un lieu dans lequel le monde qui sortait des quartiers pouvait rencontrer des types des autres quartiers. Et établir des relations avec l'inconnu, quoi, on peut dire, quoi, l'inhabituel, quoi, le surprenant parfois. Quoi, donc à partir de ce moment-là, le discours et les actions d'un type ne devenaient pas figés par la vie à l'intérieur du quartier, quoi, on peut dire. Parce que l'important, c'est de se libérer de l'oppression caractérologique fatale, quoi, de le chef de quartier. C'est pourquoi il faut, comme on dit à la borde, qu'il y a la liberté de promenade, quoi, on peut dire, d'aller d'un côté à l'autre. Sans cet vagabondage, on peut dire parfois vagabondage, c'est gentil, qui a poc la mena foi, le droit au vagabondage. Quoi, quan parla de droit de l'home, dic que el primer droit de l'home és el droit al vagabondatge. I ben, la CLEP era el lloc que les vagabonds poguessin retrobar. La CLEP era una mise en pràctic de la terrorització del vagabondatge. El primer se separa d'abord, se separa de qualque part, per anar a York, se diferencia i rencontra les altres coses i les altres elements. Per exemple, una de les històries, la més important del club de Sant Alban, c'était la redacció d'un jornal. C'était el jornal.
Le premier poste auquel Fanon est nommé et où il va essayer d'adapter les idées de Tosquelles, le club deviendra un café mort, c'est celui de médecin-chef en Algérie, à l'hôpital de Blida. Alors il faut imaginer ce jeune homme, toujours tiré à quatre épingles, s'épongeant car il fait souvent chaud, mais avec des mouchoirs marqués de son monogramme, et qui doit parcourir une immense structure divisée entre patients européens et musulmans, comme on disait. Fanon a la charge d'un pavillon de femmes européennes et d'un autre d'hommes musulmans. À l'époque, à la veille de l'insurrection, l'école psychiatrique d'Alger enseignait encore que dans le cerveau de l'arabe, mais attention, hein, pas dans le cerveau du kabyle, l'architecture et la hiérarchie des centres nerveux prédisposaient à la fainéantise et aux impulsivités criminelles.
Il y a deux façons de traiter deux populations. L'hôpital est structuré comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'hôpital des Français et l'hôpital des Arabes, quoi. Et ça, c'est quand même... C'est surréaliste quand même, hein. Je veux dire, c'est un truc, ça n'existait pas en France, hein. Bon, enfin bref, il essaye d'intéresser les femmes à des choses qui les intéressent, qui font partie de la vie. De la musique, des films, le journal de l'hôpital, le tricot, des choses qui les intéressent, quoi. Et les femmes, très vite, ça marche, quoi. Elles se prennent au jeu, elles acceptent d'entrer en relation avec l'institution hospitalière. Et donc il est content que ça marche. Il essaye la même chose avec les hommes algériens, musulmans. Et là, ça marche pas du tout. Personne ne vient en réunion. Parce que c'est surtout des réunions, hein. La psychothérapie institutionnelle, c'est des réunions, hein. Et donc, les hommes viennent pas aux réunions. Quand ils viennent, ils s'endorment. Sitôt qu'on a le dos tourné, ils s'en vont. Ils refusent de rester.
Oui, ils cherchent à rejoindre les dortoirs pour dormir. Et il faut fermer les dortoirs.
Ouais, il faut fermer les dortoirs à clé pour qu'ils puissent rester à La Réunion. C'est incroyable, quoi. Il ne comprend pas. Il essaye de comprendre pourquoi. Alors, il se dit, il faut s'intéresser à la spécificité de mes malades. Et ça, pour ça, Fanon, je veux dire, c'est notre précurseur à tous, hein. C'est-à-dire que c'est le premier à se dire quelle est leur vie réelle, qu'est-ce qui les intéresse vraiment dans leur existence. Et donc, il va aller les rencontrer. Il va aller dans les douars, les villages, quoi. Voir comment ils vivent. Il va aller surtout visiter les gens qui les soignent habituellement. C'est-à-dire les marabouts, les talebs. Talebs, ça veut dire l'étudiant, hein. Taliban, c'est pareil, c'est le même mot. S'il étudie, c'est qu'il sait écrire. Et s'il sait écrire, bah, il peut écrire des amulettes, quoi. Et donc, on va voir un taleb pour avoir des amulettes. Et je veux dire, l'Algérie, à ce moment-là, ça existe toujours, hein. C'est très, très présent, toujours, hein, toute cette affaire-là.
C'est ici que viennent les malades mentaux. Ici, tu te débarrasses de ton mal, des djinns, des esprits, de tes angoisses, de tout. Quand tu viens ici, ton psychisme guérit.
C'est lié à la croyance des djinns. Si un djinn qui est invisible possède quelqu'un qui lui fait du mal, que doit-on faire ? Le faire sortir. Si un voleur entre chez toi et met tout son dessus-dessous, que dois-tu faire pour arrêter ça? Tu dois le chasser. Si tu chasses ce djinn du corps de cet individu, il devient protégé.
Nous sommes au fondement de l'ethnopsychiatrie d'aujourd'hui. La nature des troubles mentaux, leur fréquence varie selon les sociétés. Bah, une ménagère suisse-allemande inquiète de sa sécurité, va tomber volontiers dans la névrose du nettoyage. Un patient algérien se vivra constamment en insécurité. La société coloniale, constate Fanon, génère en effet des fractures intérieures insupportables. Chez le colonial comme chez le colonisé. Le premier a provoqué l'effondrement de la culture du second qui doit vivre au fond d'un trou. En 1956, Fanon soutient cette idée au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui réunit des personnalités venues du monde entier et des étudiants à Paris. Nous sommes en Sorbonne, à l'amphithéâtre Descartes. C'est le seul enregistrement que nous avons conservé de Frantz Fanon.
Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l'avenir, se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l'oppression. À la fois présente et momifiée, elle atteste contre ses membres. Elle les définit en effet sans appel. L'apathie, si universellement signalée des peuples coloniaux, n'est que la conséquence logique de cette opération. Le groupe infériorisé avait admis, la force de raisonnement étant implacable, que ces malheurs procédaient directement de sa caractéristique raciale et culturelle. L'opprimé tente alors d'y échapper, d'une part en proclamant son adhésion totale et inconditionnelle au nouveau modèle culturel, d'autre part en prononçant une condamnation irréversible de son style culturel propre. Ayant jugé, condamné, abandonné ses formes culturelles, son langage, son alimentation, ses démarches sexuelles, sa façon de s'asseoir, de se reposer, de cracher, de rire, de se divertir, l'opprimé avec l'énergie et la ténacité du naufragé se rue sur la culture imposée.
À l'hôpital de Blida, où il exerce encore en 1956, chez le docteur Fanon, les clubs des patients programment des disques. Si au pavillon des femmes européennes, ce peut être dit aussi, chez les hommes musulmans, dans des moments nommés café mort, ce peut être Abderrahman Aziz, lui-même devenu un proche de Fanon.
حبيب ما عندي حتى حبيب غريب غريب ما عندي حتى حبيب ما عندي حتى حبيب شكواي لله شكواي لله شكواي لله شكواي لله راجل إله ما يخيب
France Inter Intelligence Service Jean Lebrun.
À l'hôpital de Blida, la guerre d'indépendance de l'Algérie, initiée par l'insurrection de novembre 1954, rejoint Frantz Fanon et son équipe, ses infirmiers algériens, ses internes. Il leur arrive de recevoir des membres des unités de répression qui viennent consulter après avoir présidé à des séances de torture. Et comme les uns et les autres de l'équipe de Fanon sont réputés sympathisants de la cause de l'armée de libération nationale, celle-ci leur envoie des combattants traumatisés. L'hôpital est vaste, il est propice aux activités clandestines, mais il est arrivé au moins une fois que s'y rencontrent le torturé et le tortionnaire. Les damnés de la Terre, le livre testament de Fanon, c'est un écrit de feu dont on fait souvent une lecture uniquement révolutionnaire sous l'éclairage particulier que lui en a donné Sartre dans sa préface. Mais il expose aussi, dans une langue plus retenue, quelques-uns des cas les plus difficiles qu'es-tu à entendre le docteur Fanon à Blida.
Assassinat par deux jeunes Algériens de 13 et 14 ans de leurs camarades de jeu européens. Il s'agit d'une expertise médico-légale. Deux jeunes Algériens de 13 et 14 ans, élèves d'une école primaire, sont accusés d'avoir tué un de leurs camarades européens. Ils ont reconnu avoir commis l'acte. Celui de 13 ans. Nous n'étions pas fâchés avec lui. Tous les jeudis, on allait chasser ensemble à la fronde, sur la colline, au-dessus du village. C'était notre bon copain. Il n'allait plus à l'école car il voulait devenir maçon comme son père. Un jour, on a décidé de le tuer, parce que les Européens, ils veulent tuer tous les Algériens. Nous, on ne peut pas tuer les grands. Mais comme lui, il a notre âge, on peut. On ne savait pas comment le tuer. On voulait le jeter dans un fossé, mais il aurait pu être seulement blessé. Alors on a pris un couteau à la maison et on l'a tué. Mais pourquoi l'avoir choisi, lui? Parce qu'il jouait avec nous. Un autre ne serait pas monté avec nous là-haut. Est-ce que cela te fait quelque chose d'avoir tué quelqu'un? Non, puisqu'ils veulent nous tuer, alors. Cela t'embête-t-il d'être en prison? Non?
Fanon ne tire pas de leçon de ça. Il n'en tire pas de leçon, il est consterné, il ne sait pas quoi dire. Hein. Fanon ne sait pas quoi dire. C'est une expertise. Hein. Et il a beaucoup travaillé sur les histoires d'expertise. Mais les gamins ont avoué hein, avoir tué leurs camarades de jeu, les deux gamins algériens. Quoi. Et donc, il leur pose des questions. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais ils nous tuent aussi, nous. Les Européens, ils nous tuent aussi. Et ils tuent des enfants aussi.
Celui de 14 ans. Ce jeune inculpé contraste nettement avec son camarade. C'est déjà presque un homme. Un adulte par le contrôle musculaire, la physionomie, le ton et le contenu des réponses. Lui non plus ne nie pas avoir tué. Pourquoi a-t-il tué? Il ne répond pas à la question, mais me demande si j'ai déjà vu un Européen en prison. Y a-t-il jamais eu en prison un Européen arrêté après le meurtre d'un Algérien? Je lui réponds qu'effectivement, je n'ai pas vu d'Européen en prison. Et pourtant, il y a des Algériens qui sont tués tous les jours, non? Oui. Alors pourquoi ne trouve-t-on que les Algériens dans les prisons? Vous pouvez m'expliquer? Moi, je voulais monter au Djebel, mais je suis trop petit. Alors on a dit avec X qu'il fallait tuer un Européen. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fallait faire d'après vous ? Je ne sais pas. Mais tu es un enfant et ce sont des choses de grandes personnes qui se passent. Mais il tue aussi les enfants. Mais ce n'était pas une raison pour tuer ton copain. Eh bien, je l'ai tué. Maintenant, faites ce que vous voulez.
La préface de Jean-Paul Sartre, rédigée l'été 1961, présente de cette affaire une interprétation plus furieuse. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, je cite Jean-Paul Sartre. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Un homme qui s'est fait homme en assassinant des Européens. Un peu plus loin, Jean-Paul Sartre ajoute un autre homme de meilleure qualité. Toby Nathan.
Et là, je pense que Sartre a un peu mis le feu aux poudres, quoi, en faisant ça. C'est mon opinion, mais je ne suis pas le seul à penser ça. Bon, c'est Sartre, hein. Il a toujours été comme ça, Sartre. Je veux dire, et par la suite, il l'a fait à de très nombreuses reprises, hein, la même chose. C'est-à-dire, disant que, prenant le parti de la violence et justifiant la violence parce que il considère, c'est sa théorie, hein, que la violence a un caractère purificateur en fait, hein. Il faut purifier la souillure de l'esclavage ou de la colonisation et ça ne peut être purifié que par la violence. C'est la théorie de Sartre.
En janvier 1956, Fanon a eu un moment d'espoir après la victoire aux élections françaises du Front républicain mené par Mendès France. Mais c'est Guy Mollet qui a été nommé président du Conseil et il a cédé de suite aux activistes partisans de l'Algérie française. L'été 56 est paroxystique à Blida. Attaque de ferme dans les environs, couvre-feu en ville, grève illimitée des étudiants. Les autorités françaises considèrent dorénavant, l'hôpital psychiatrique comme un nid de Felaga. Fanon doit choisir. Il envoie sa lettre de démission au socialiste Robert Lacoste, le ministre résident à Alger.
Monsieur le ministre, j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l'homme de ne plus être étranger à son environnement, je me dois d'affirmer que l'arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. La fonction d'une structure sociale est de mettre en place des institutions traversées par le souci de l'homme. Une société qui accule ses membres à des solutions de désespoir est une société non viable, une société à remplacer.
En 1957, Frantz Fanon ne bascule-t-il pas dans la clandestinité, Monsieur Lebrun ?
Eh bien, il n'a pas d'autre choix. Il a d'ailleurs été expulsé d'Algérie par Lacoste. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement, mais je suis mon propre fondement. Fanon aimait répéter cette formule. La révolution algérienne l'a contraint à quitter son personnage de médecin-chef. Il va donc passer un moment dissimulé en France, puis le réseau de son éditeur, Francis Janson, le fait passer en Tunisie, nouvellement indépendante, qui abrite les bureaux de la révolution algérienne. Il garde une activité de médecin dans un hôpital de jour, mais l'essentiel de son temps est consacré au porte-parole du FLN et à la rédaction collective des articles de son journal El Moudjahid. Pour lui, la route est tracée, la marche vers l'indépendance actée. La violence transformatrice va faire des infériorisés des égaux, les femmes comme les hommes. Dans sa conception de l'Algérie future, il n'y a d'ailleurs pas d'exclusive. Seuls quelques chacals, comme il dit, en seront exclus. Mais les 130 000 juifs, le million d'Européens, pourront y être chez eux. Si le FLN ne l'affirme pas souvent, Fanon veut croire que c'est parce que c'est de l'ordre de l'évidence. Au congrès de la Sorbonne, souvenez-vous, les artistes et écrivains noirs. Il avait affirmé que les infériorisés, une fois retrouvée leur culture, la conçoivent comme une culture commune à l'humanité. C'est le moment où tout racisme peut être dépassé.
La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. Afin de réaliser cette libération, l'infériorisé met en jeu toutes ses ressources, toutes ses acquisitions, les anciennes et les nouvelles, les siennes et celles de l'occupant. La lutte est d'emblée totale, absolue. Mais alors, on ne voit guère apparaître de racisme. Au moment d'imposer sa domination, pour justifier l'esclavage, l'oppresseur avait fait appel à des arguments scientifiques. Ici, rien de pareil. Un peuple qui entreprend une lutte de libération légitime rarement le racisme. Même au cours des périodes aiguës de lutte armée insurrectionnelle, on n'assiste jamais à la prise en masse de justifications biologiques. La lutte de l'infériorisé se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. C'est l'opposition désormais classique des luttes de conquête et des luttes de libération. En cours de lutte, la nation dominatrice essaie de rééditer des arguments racistes, mais l'élaboration du racisme se révèle de plus en plus inefficace. L'occupant ne comprend plus. La fin du racisme commence avec cette soudaine incompréhension.
Applaudissements sur les bancs de la Sorbonne, qui peuvent nous étonner aujourd'hui, où nous avons tendance à parler autrement, en racialisant. Au Brésil, dans cette fin des années 1950, le grand ethnologue Roger Bastide pouvait affirmer « Je suis blanc et de culture noire. » Et Fanon, dans « Peau noire, masque blanc. » « Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. » Il reste que pour accéder à cet horizon de la fin du racisme, il faut en passer par les indépendances. Fanon ne les conçoit pas autrement que comme une espérance, pas une revanche, presque comme une manière de décharger l'occidental de son fardeau qui l'empêche de rejoindre l'humanité. Dans El Mujahid, c'est le sens des articles qu'il ne signe pas. Il exhorte les Français à ne plus s'avilir dans un combat inutile. Mais sa mission l'amène davantage dorénavant vers l'Afrique noire, où l'Algérie en lutte se verrait bien en guide, en poisson pilote. Il devient ambassadeur itinérant du gouvernement provisoire de la République algérienne dans les pays francophones qui se préparent à l'indépendance. Il chauffe les feux, il appelle à ne pas concevoir cette indépendance comme un simple passage de relais entre la France et des bourgeoisies nationales, compradores, qui feraient des États nouveaux le ventre de leur seule prospérité personnelle. On va entendre maintenant Mireille Fanon Mendès France. Fanon a deux enfants, le cadet, Olivier, qui vit à Tunis, avec lui et sa mère, Josie, et puis Mireille, l'aînée, qui a vécu par la force des circonstances plus loin de lui. Elle a été élevée, elle, en France, protégée par la constellation psychiatrique à laquelle appartenait son père. Fière d'avoir vécu chez les fous, elle a ensuite provoqué un étonnant télescopage dans l'histoire en épousant un fils de Mendès, Bernard Mendès France. Une anecdote, je ne sais pas si vous pouvez la commenter. Il est à Clermont-de-l'Oise en 1957, avant de partir dans la clandestinité à Tunis. Il n'est pas d'un noir d'ébène sans doute. En tout cas, il fume une cigarette à la portière de la voiture de son ami Jean M. Et un Algérien passe là, le prend pour un compatriote, et lui dit « On fume pas pendant le ramadan ». Et Fanon écrase sa cigarette et dit « Je suis devenu un des leurs ».
Comment voulez-vous que je réponde à ça ?«
Je suis devenu un des leurs ».
Ben oui, Oui, il était devenu...
Il était devenu algérien.
Il était devenu la cause pour la libération de l'Algérie. Après, quand vous dites il est devenu algérien, la question qui se pose, enfin, est-ce qu'il le serait resté? Et ça, il n'y a que lui qui peut y répondre. Personne ne peut répondre à ça. Mais je comprends, quand j'entends « je suis devenu un des leurs », je comprends que j'ai pris fait et cause pour leur cause. Et que si on me dit « on ne fume pas pendant le ramadan », je ne vais pas les heurter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils respectaient le ramadan, vous voyez.
Alors, il n'est peut-être pas devenu algérien, ou il ne serait peut-être pas resté algérien, il est devenu africain.
Ah ben ça, il était africain de toute façon. Afro-descendant, on est africain. On vient de là. L'histoire de l'Afrique ne peut pas nous être indifférente.
Décembre 1960, un soir, avant de passer à table chez des amis à Tunis, il demande un bon repas parce qu'il a une nouvelle sensationnelle à annoncer. J'ai une leucémie. La dictée dans l'urgence des damnés de la terre intervient à ce moment. Il l'achève quand il rencontre l'été 61 le couple Sartre-Beauvoir à Rome. Il sait que son temps est compté. Un séjour dans un hôpital soviétique n'ayant eu qu'un effet de retardement, Fanon va consentir à être soigné aux États-Unis. Les Américains, qui détestent la colonisation française, l'ont fait approcher par un agent de la CIA qui entretient sans doute des espérances dans le futur personnel politique algérien. Fanon n'aura pas le temps de les décevoir. Il meurt dans l'hôpital militaire américain où il vient d'être admis le 6 décembre 1961. L'agent américain sera du petit groupe qui accompagne son corps rapatrié de la frontière tunisienne à une parcelle de territoire libéré algérien. Il y est inhumé. On imagine que les autorités françaises ont apprécié. Le temps de l'influence posthume va venir, et elle est longtemps moins forte en France qu'aux États-Unis. Tenez un exemple avec le disque qui va venir. Rossé, en 2018, a repris une chanson de Danae Bellany de 1975. C'est une chanteuse qui venait de France, qui a pressé un vinyle consacré à Fanon dès 1975. Il est rhabillé, il y est question d'Aimé Césaire. Le titre, c'est « Les damnés de la terre ». Juste un rapprochement improbable entre Fanon et Césaire, puisque Césaire avait refusé de préfacer « Les damnés de la terre ».
Inter. Intelligence, service.
L'influence de Frantz Fanon, Toby Nathan toujours.
Je trouve que les gens qui l'ont compris le mieux, c'est les Noirs américains. Parce qu'ils ont compris que Fanon, c'est un Noir américain. Hein. C'est un Antillais, quoi. C'est pareil que les Noirs américains, c'est-à-dire c'est un ancien esclave devenu membre libre d'une société libre, mais dont on a, qui a été privé de ses ancêtres, quoi. Et qu'est-ce que deviennent des gens qui ont été privés de leurs ancêtres? Et ça, je pense que cette question-là, ils ont parfaitement saisi, les Noirs américains ont parfaitement saisi l'inspiration originelle de Fanon. Et ça, je trouve que je comprends qu'il l'ait pris comme saint patron. Ça me paraît tout à fait normal. En Afrique, c'est très différent. C'est cette espèce de nostalgie qu'on a tout le temps en Afrique, encore aujourd'hui, d'un moment où l'Afrique promettait des lendemains qui chantent, quoi. Et on a la nostalgie de ce moment qui en fait, n'est jamais arrivé. C'est un moment qui n'est jamais arrivé, nulle part, quoi. Lumumba, ça a duré quelques mois. Sankara, ça a duré quelques mois. Enfin, partout, c'était la même chose partout, hein. Chaque fois qu'il y a eu un démocrate qui a pris le pouvoir, il a été renversé par un dictateur. Partout.
Lui, il espérait les États-Unis d'Afrique,
oui,
qui feraient le bon par-dessus les États nationaux, l'étape des États nationaux.
C'est ça. C'est ça qu'il espérait. C'est ça qu'il espérait. Et là aussi, on voit l'origine antillaise, quoi. C'est-à-dire que parce qu'il ne sait pas que l'Afrique s'est faite de plein d'ethnies, quoi. C'est plein de choses très, très différentes, quoi. Mais pour un Antillais qui ne connaît pas son ethnie d'origine, l'Afrique, c'est un même ensemble, quoi. Or, ce n'est pas du tout un même ensemble.
Mireille Fanon, Mendès France, maintenant. Elle a créé une fondation Fanon. Mais pour poser des questions politiques, décolonialiser le savoir, c'est un impératif. Sinon, on retombe dans les ornières idéologiques de l'antiracisme répétitif.
Si on se dit antiraciste, si on veut comprendre pourquoi, dans des moments de crispation économique comme nous vivons depuis quelque temps, il y a une résurgence à la fois de la violence policière, de la violence donc de l'État, mais aussi une forme qui est associée toujours avec une forme d'impunité. Donc il faut comprendre d'où ça vient. Et si on veut le comprendre, on doit avoir une analyse politique. C'est pour ça qu'on parle d'antiracisme politique. On ne peut pas se contenter, comme cela a été fait pendant plus de 40 ans par les grandes organisations de droits de l'homme françaises et même ailleurs, de dénoncer le racisme. Non, on est obligé de comprendre d'où ça vient. Et la mise en place de la hiérarchisation de l'humanité par la politique de la race, c'est le départ de ça. Les Indiens n'ont pas d'âme, etc. Parce que ce que subissent les Noirs, les indigènes le subissent. Mais eux, ils ont subi quelque chose de tout à fait différent. Ils ont été mis en esclavage, mais très rapidement, ils n'ont plus été mis en esclavage parce qu'apparemment, ils n'étaient pas assez productifs. Donc, si on veut bien comprendre ça, il faut comprendre cette origine. Et l'origine, c'est la mise en place de cette politique de la race, mais sur les Noirs et les indigènes. Donc, on doit associer avec cette mise en place de la politique de la race les fondements du capitalisme. Puisque c'est à ce moment-là que le corps humain est devenu une marchandise. C'est bien un des aspects les plus violent du capitalisme, c'est que le corps humain ne compte plus, il devient une marchandise.
La dernière ruse du capitalisme, qui est devenue maintenant consumériste, qui est fondée sur la maîtrise des algorithmes, c'est de pratiquer l'analyse faciale à partir des données qu'il accumule. Les as du marketing, de la publicité, considérant que les gens achètent et se comportent de façon grégaire, constituent des marchés ethniques, noirs, beurre, métis, etc. On peut leur vendre tous les produits qu'on veut, y compris ceux des industries culturelles qui appellent à la révolte. Dans le monde vers lequel on s'achemine, Fanon dirait « il faut toujours s'interroger ».
Les questions qu'il se pose, aussi bien en tant que psychiatre, que militant, que journaliste, ou même aussi ambassadeur itinérant, c'est de comprendre comment l'homme peut devenir humain. Donc la question de Fanon, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que l'homme, un jour, arrive à être debout et non plus couché, à partir du moment où on a décidé qu'une partie de l'humanité n'était pas digne d'être humaine, on a brisé le sens de l'humanité, on a brisé le sens de l'altérité, de l'intersubjectivité. Et donc, Fanon s'est toujours interrogé sur ce qui devait être, j'aime pas trop ce terme, mais je vais le mettre entre parenthèses, reconstruit, réparé, pour que l'humanité inhumaine devienne enfin une humanité humaine.
Prendre les mots du clochard. et en rénover la dentition. Les mots ont des crocs et doivent faire mal.
Il a un caractère prophétique, Fanon, et peut-être pas tout à fait pour les raisons qui étaient les siennes, mais il était traversé par ça. Et je pense qu'il a été... il aurait pu faire de très grandes choses, hein, Fanon. Il est mort prématurément, c'est dommage, quoi, vraiment. Tout le monde regrette ça. Pour la pensée, on regrette ça. Parce que il allait être aussi déçu par la Révolution. Et peut-être qu'il serait revenu à ce qu'il est naturellement, c'est-à-dire un écrivain. C'est ce que je pense, qu'au fond, c'est un écrivain, quoi. Et ça aurait donné un très grand écrivain.
Les mots doux et souples doivent disparaître de cet enfer. L'homme parle trop. Il faut qu'on lui apprenne à réfléchir. Pour cela, il faut lui faire peur, très peur. Pour cela, j'ai les mots arc, les mots balle, les mots scie. Des mots qui soient des mots.
Ce qui m'intéresse, c'est le vrai Fanon, c'est-à-dire celui qui sait tout faire, qui sait faire du théâtre, qui sait faire de la psychiatrie, qui sait faire de la recherche. C'est ça qui m'intéresse, c'est le vrai Fanon. C'est pas l'espèce d'objet fétiche qu'on a fait de lui. C'est celui-là. Et j'aurais dit, détache-toi du fétiche qu'on a fait de toi pour retrouver le vrai Fanon. C'est ça que j'aurais dit si j'avais eu l'occasion de lui parler.
Il me faut des mots qui ont des bottes de 7 livres. Des mots couleur de chair trépidante. L'amour qui vous fait vivre à la puissance seconde. Un mot qui a soif, qui a faim, qui crie, pleure, appelle, s'absorbe et se perd.
Remerciements à Toby Nathan, à Mireille Fanon, Mendès France, les lectures Grégoire Roqueplot, la prise de son Yves Lehors, Jean-André Gianaccini, en studio Pierre-Yves de Roland. Remerciements à Franck Olivard et Frédéric Martin, les agents d'intelligence service, la réalisation Audrey Ripouille.